« Je viens de voir apparaître des lumières chez toi, dans la tour de Nesle, » dit-il à Louis à mi-voix.
« Ce sont les gardiens, sans doute, qui veulent se régaler l'œil aussi. »
« Je leur céderai volontiers ma place, » murmura Charles.
« Quoi, cela ne t'amuse-t-il donc pas de voir rôtir le parrain d'Isabelle ?»
dit Louis de Navarre.
« Il est vrai que Messire Jacques fut le parrain de notre sœur, » murmura Charles.
« Louis, taisez-vous, » fit le roi. Le jeune prince Charles, pour dissiper le malaise qui le gagnait, s'efforça d'occuper sa pensée d'un objet rassurant. Il se mit à songer à sa femme Blanche, à se représenter le merveilleux sourire de Blanche, les bras légers de Blanche entre lesquels, tout à l'heure, il irait demander l'oubli de cette atroce vision. Mais il ne put éviter que s'interposât un souvenir malheureux, le souvenir des deux enfants que Blanche lui avait donnés et qui étaient morts presque aussitôt qu'apparus, deux petites créatures qu'il revoyait inertes dans leur linge brodé. Le sort lui accorderait-il d'avoir de Blanche d'autres enfants, et qui vécussent ? Le hurlement de la foule le fit sursauter. Les flammes venaient de jaillir du bûcher. Sur un ordre d'Alain de Pareil, les archers éteignirent leurs torches dans l'herbe, et la nuit ne fut plus éclairée que par le brasier. Le précepteur de Normandie fut atteint le premier. Il eut un pathétique mouvement de recul quand le feu courut vers lui, et ses lèvres s'ouvrirent largement comme s'il cherchait en vain à aspirer un air qui le fuyait. Son corps, malgré la corde, se plia presque en deux. Sa mitre de papier tomba et fut en un instant consumée. Le feu tournait autour de lui, puis une vague fumée l'enveloppa. Quand elle se dissipa, Geoffroy de Charnay était en flammes, hurlant et haletant, et tentant de s'arracher au poteau qui tremblait sur sa base. Le grand maître inclinait le visage vers son compagnon et lui parlait. Mais la foule grondait si fort à présent pour surmonter son horreur que l'on ne put rien entendre sinon le mot de « frère » par deux fois lancé. Les aides-bourreaux couraient en se bousculant, puisant dans la réserve de bûches et attisant le foyer avec de longs crocs de fer. Louis de Navarre, dont la pensée avait des retours assez lents, demanda à son frère « Es-tu bien sûr d'avoir vu des lumières dans la tour de Nesle ? Je n'en aperçois point. » Et un souci un moment sembla l'habiter. Enguerrand de Marigny s'était mis la main devant les yeux, comme pour se protéger de l'éclat des flammes.
« Belle image de l'enfer que vous nous donnez là, messire de Nogaret, » dit le comte de Valois. « Est-ce à votre vie future que vous songez ?»
Guillaume de Nogaret ne répondit pas. Geoffroy de Charnay n'était plus qu'un objet qui noircissait, crépitait, se gonflait de bulles, s'effondrait lentement dans la cendre, devenait cendre. Des femmes s'évanouirent. D'autres s'approchaient de la berge à la hâte pour aller vomir dans l'eau, presque sous le nez du roi. La foule, d'avoir tant hurlé, s'était calmée, et l'on commençait à crier au miracle parce que le vent s'obstinant à souffler dans le même sens couchait les flammes devant le grand maître, et que celui-ci n'avait pas encore été atteint. Comment pouvait-il tenir si longtemps ? Le bûcher de son côté paraissait intact. Puis, soudain, il y eut un effondrement du brasier, et ravivé, les flammes bondirent devant le condamné.
« Ça y est, lui aussi !» s'écria Louis de Navarre.
Les vastes yeux froids de Philippe le Bel, même en ce moment, ne sillaient pas. Et tout à coup, la voix du grand maître s'éleva à travers le rideau de feu, et comme si elle se fût adressée à chacun, atteignit chacun en plein visage. Avec une force stupéfiante, ainsi qu'il l'avait fait devant Notre-Dame, Jacques de Molay criait.
« Honte ! Honte ! Vous voyez des innocents qui meurent ! Honte sur vous tous ! Dieu vous jugera !»
La flamme le flagella, brûla sa barbe, calcina en une seconde sa mitre de papier et alluma ses cheveux blancs. La foule terrifiée s'était tue. On eût dit qu'on brûlait un prophète fou. De ce visage en feu, la voix effrayante proféra
« Pape Clément, chevalier Guillaume, roi Philippe, avant un an, je vous cite apparaître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudits, maudits, tous maudits jusqu'à la 13e génération de vos races !»
Les flammes entrèrent dans la bouche du grand maître et y étouffèrent son dernier cri. Puis, pendant un temps qui parut interminable, il se battit contre la mort. Enfin, il se plia, la corde se rompit, il s'effondra dans la fournaise, et l'on vit sa main qui demeurait levée entre les flammes. Elle resta ainsi jusqu'à ce qu'elle fût toute noire. La foule demeurait sur place et n'était que murmures, attentes sans raison, consternation, angoisse. Tout le poids de la nuit et de l'horreur était tombé sur elle. Les derniers craquements des braises la faisaient tressaillir. Les ténèbres gagnaient sur les lueurs déclinantes du bûcher. Les archers voulurent repousser les gens, mais ceux-ci ne se décidaient pas à partir. Ils chuchotaient Ce n'est pas nous qui l'a maudit. C'est le roi, n'est-ce pas? C'est le pape, c'est Nogaret. » Les regards se levaient vers la loggia. Le roi était toujours contre la balustrade. Il regardait la main noire du grand maître plantée dans la cendre rouge. Une main brûlée, tout ce qui restait de l'ordre illustre des chevaliers du temple. Mais cette main était immobilisée dans le geste de l'anathème.
« Eh bien, mon frère, » dit Monseigneur de Valois, avec un mauvais sourire, « vous voici content, je pense. »
Philippe le Bel se retourna. « Non, mon frère, dit-il, je ne le suis point. J'ai commis une erreur. » Valois se gonfla, déjà prêt à triompher.
« Vraiment, vous en convenez ?»«
Oui, mon frère, dit le roi. J'aurais dû leur faire arracher la langue avant de les brûler. » Suivi de Nogaret, de Marigny et de Bouville, il descendit l'escalier de la tour pour regagner ses appartements. Maintenant, le bûcher était gris avec quelques étoiles de feu qui sautaient encore et s'éteignaient vite. La loggia restait emplie d'une amère odeur de chair brûlée.
« Cela pue !» dit Louis de Navarre. « Je trouve vraiment que cela pue trop, allons-nous-en »
Le jeune prince Charles se demandait si même entre les bras de Blanche, il parviendrait à oublier.